Shavua Tov.
Alors,
Shavua Tov.
à cette matinée autour de l'Akba Omer, de l'étude de la Kabbalah, Baruch HaShem, vous êtes le dernier rave de cette matinée, comme on dit chez nous, Bechavod.
Merci beaucoup. Bon, écoutez, on va demander enfin, c'est David Alta qui m'a demandé de commenter une expression qu'on dit être tirée du Zohar, qui est Kutcha Brichu Raita vi Israël Hadou, le Saint béni soit-elle, le Saint béni soit-il. La Torah et Israël sont une seule et même chose. C'est une expression bien connue qui n'existe pas. Ça, c'est le premier point. Cette expression n'apparaît nulle part dans le Zohar. Ça fait partie de l'ensemble des expressions que l'on attribue aux anciens, mais qui en fait n'existent pas. Comme par exemple cette idée que le souffle que Dieu a insufflé à Adam Harishon, on dit man de nafar mitoché nafar, ce qu'il a insufflé, il l'a insufflé de son intériorité, et c'est cité au nom du Zohar, mais ce n'est pas dans le Zohar. De même, cette expression que nous allons étudier aujourd'hui n'existe pas dans le Zohar pour une raison très simple. C'est que, en principe, ça serait contradictoire de la foi juive. La foi juive, la tradition d'Israël, fait une distinction très nette entre Dieu et la créature. Or, étant donné que la Torah est créée, que Israël est créé, il est impossible de dire que Dieu, Israël et la Torah seraient une seule et même chose. Cependant, cette expression n'est pas vaine, elle a sa source dans le Zohar malgré tout, mais d'une manière un petit peu différente. Alors, ce que je vais faire, je vais étudier avec vous ce texte du Zohar tel qu'il existe en vérité. Voici donc, vous avez ici le Zohar édition de Vilna, enfin, photocopie de l'édition de Vilna, c'est dans la paracha de Acharemot, page Ayin Gimel Amud Aleph, 73a. Ça, c'est un enseignement de Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar étant le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Begin dehi geniza ila yakira, shmei mamash, oraita kola satim vegalia berazad ishmei. Ce qui veut dire, de même que la Torah est le nom de Dieu, elle n'est pas Dieu lui-même, elle est son nom. Donc, de même que Dieu est à la fois caché et révélé, de même dans la Torah, il y a une partie cachée et une partie révélée. C'est-à-dire que, est-ce que nous connaissons le Créateur? La réponse est oui et non à la fois. Nous ne connaissons pas le Créateur en raison de sa transcendance absolue. La transcendance de Dieu veut qu'il soit absolument inaccessible. Mais d'un autre côté, Dieu s'est révélé aux hommes. Il s'est révélé en tant que Créateur. Donc, on peut distinguer de notre point de vue, pas du point de vue de la vérité absolue, mais du point de vue des hommes, entre deux manifestations, enfin deux entendements de ce qu'est la divinité. Dieu en tant que caché, Dieu en tant que révélé. Ça s'appelle Satim Vegalia. De même, étant donné que la Torah est son nom, alors dans la Torah également, il y a une partie révélée et une partie cachée, ce qui est tout à fait normal. Et continue le Zohar, Ve'alda Israël bitren dargin inun Satim Vegalia. C'est pour ça qu'il y a deux niveaux dans le peuple d'Israël. Celui qui est révélé, celui qui est caché. Par la suite, le Zohar dit qu'il s'agit des deux noms de Yaakov et Israël. Et là, il cite un enseignement plus ancien. Des Taninan, nous avons enseigné Gimel Dargini Nun Mitkashran Dabeda. Il y a trois niveaux qui sont liés l'un à l'autre. Kutcha Berichu, Oraita et Israël. Le Saint béni soit-il, la Torah et Israël sont liés ensemble parce qu'ils se ressemblent. De même qu'il y a dans Dieu le caché et le révélé, il en est de même pour ce qui est de la Torah et d'Israël. Donc ils sont liés l'un à l'autre. Vecholchad, et chacun d'entre eux, Dargal, Darga, Satim, Vegalia. Et chacun est à la fois révélé, caché et révélé. Parce qu'il y a chez Akadosh Baruch Hu, chez le Saint béni soit-il, Kutcha Berichu, Dargal, Darga, Satim, Vegalia, le Saint béni soit-il, lui aussi se présente sous différents niveaux, le caché et le révélé. Oraita Achi, Satim, Vegalia, Rinamé donc même pour la Torah, il y a la partie cachée et la partie révélée. Et Israël, Achiname, Dargal, Darga. Et également dans le peuple d'Israël, il y a un niveau plus haut qu'un autre. Hada Hudirtiv, c'est pour ça qu'il est dit, Magid Devarav le Yaakov, Hukav Umishpatav le Israël. Il dit ses paroles, il révèle ses paroles à Yaakov, ses lois et ses commandements à Israël. À nouveau, Tren Darginin, il y a donc deux niveaux, Yaakov et Israël. Yaakov et Israël, Had Galia et Had Satim. L'un est révélé, l'un et l'autre est caché. Voilà. C'est ça donc le texte du Zohar. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, à ce propos, je voudrais vous lire tout d'abord deux enseignements de nos maîtres autour de ce texte. Un des enseignements, c'est celui du Shlah. Le Shlah, Shene Luchot Abrit, initial Shlah, de Rabbi Yeshayahu HaLevi Horovitz. Rabbi Yeshayahu HaLevi Horovitz, qu'on appelle le Baal HaShlah, ou le Shene Luchot Abrit, est un grand maître du XVIe siècle qui a d'abord exercé à Prague, à peu près à la même époque que le Maharal de Prague, et qui finalement a fait son aliyah, est devenu rabbin de Jérusalem et qui a été enterré à Tibériade jusqu'à ce jour. Vous pouvez vous rendre sur sa tombe qui n'est pas loin de la tombe de Rambam, le Maïmonide. Alors que dit-il de ce passage? Alors pour tout vous dire, pour expliquer ce passage, il emploie quelque chose comme 150 pages. Alors je ne vais quand même pas vous lire 150 pages, mais on va voir l'essentiel. D'abord, ce qui est essentiel pour le Shla, c'est cette idée qu'il y a deux niveaux. Une des choses qui l'intéresse le plus, c'est précisément le niveau Torah, que dans la Torah, il y a une partie cachée, une partie révélée. Et là, il fait une petite remarque très importante, qui est que certains se sont trompés autour de cette définition, qui est que pour certains, ce que dit la Torah dans le Niglé, dans la partie révélée, est totalement différent de ce qui est dit dans la partie cachée. Et ça, c'est l'erreur qu'ont fait les Alexandrins, au temps de Philon d'Alexandrie, à l'époque de la Mishnah, enfin, même avant, à l'époque où le temple était encore établi. Un grand philosophe juif du nom de Philon d'Alexandrie a expliqué la Torah sous la forme de ce qu'on appelle l'allégorie. Pour Philon d'Alexandrie, la Torah a deux niveaux. Un niveau révélé, c'est le récit que donne la Torah, que nous lisons à la synagogue. Et puis, il y a une dimension cachée qui se cache derrière le texte de la Torah et qui n'est pas du tout censée dire la même chose que la partie révélée. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand il parle des deux femmes d'Abraham Avinu. Abraham Avinu avait une femme Sarah et une femme Hagar. Alors, pourquoi est-ce qu'il a une femme Sarah? Parce que c'est elle qu'il a épousée en premier. Pourquoi il a une deuxième femme Hagar? Parce que sa femme est stérile et donc il va donner naissance à Ishmaël avec Hagar. Pardon? Ça, c'est le récit tel que nous le connaissons. Mais il y a également une autre dimension. Les deux femmes d'Abraham sont la Torah et la philosophie. La Torah représentée par Sarah, la philosophie par Hagar. Bon, c'est très intéressant de développer cette idée de Philon, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Mais en tout cas, il n'y a rien à voir entre la Sarah et la Hagar de l'allégorie et la Torah et la Hagar, et Sarah et la Hagar du Pshat, de la partie révélée. Par contre, ce que dit le Shlah, il dit quelque chose de très important. La partie révélée de la Torah, c'est la révélation de la partie cachée. C'est-à-dire qu'en fait, si on approfondit jusqu'au bout le pshat, on arrive au sod. C'est-à-dire, on arrive à la partie secrète de la Torah parce qu'en fait, dit le Gaon de Vilna, un vrai sod, c'est celui qui correspond au pshat. Et un vrai pshat, c'est celui qui correspond au sod. Je vais vous donner un exemple, peut-être pas des plus importants, mais quand même, il représente quelque chose. Vous savez que dans la Torah, il y a une mitzvah de donner la tzedaka. Alors, en quoi consiste de donner la tzedaka? Ben, vous prenez, c'est le cas classique, vous prenez dans votre main une pièce de monnaie et vous la donnez dans la main d'un pauvre. Et c'est ça, faire la tzedaka. Le Zohar dit, quand on fait cette mitzvah, il faut penser à la chose suivante, que le bras, enfin plus souvent l'avant-bras, a la forme d'un vav, puisque c'est un trait. Les cinq doigts représentent un hé, puisque la lettre hé, c'est cinq. La pièce de monnaie que vous avez en main, c'est un yud, puisque c'est un point. Et la main du pauvre, c'est à nouveau un hé, puisqu'il lui aussi a cinq doigts. Et donc, vous avez Vav, Hé, Yud, Hé. Ce sont les quatre lettres du nom de Dieu, mais dans un autre ordre. Dans l'ordre, non pas Yud, Ké, Vav, Ké, mais Vav, Hé, Yud, Hé. Ce qui vous donne le mot Vehaya. Or, il y a un verset qui parle de la Tzedaka, qui est Vehaya, Maaseh Tzedaka, Shalom. L'acte de la charité amènera la paix. Maintenant, vous allez me dire, bon, c'est très joli, cette représentation géométrique, schématique de l'acte de la Tzedaka, mais quel est le rapport entre ça, entre l'intention de penser à Vav, Hé, Yud, Hé, et la Tzedaka en vérité? Mais si on approfondit, on comprend qu'en fait, c'est la même chose. Parce qu'il y a dans le nom de Dieu quatre lettres, deux Yud, Hé, qui représentent le monde idéal, tel qu'il doit être dans l'absolu. Et vous avez les deux lettres Vav, Hé, qui sont le monde de la réalité. C'est-à-dire, il y a une différence entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est que le monde doit être rempli de bonheur. Mais la réalité, c'est qu'il y a de la pauvreté sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener le bonheur sur Terre? Eh bien, il faut donner la charité. Ça veut dire qu'il faut remplacer le Vav-Hé par Yud-Hé. Or, c'est exactement ça que dit le mot Vehaya. Vehaya, c'est un Vav-Hé qui devient un Yud-Hé. Parce que Vehaya, c'est également un mot qui transforme le passé au futur. Haya étant un passé, tandis que Vehaya, au niveau de la grammaire, c'est un futur. Donc, on voit très bien que la kavana, l'intention profonde qu'ont les kabbalistes quand ils donnent la tzedaka, correspond exactement à ce que la tzedaka fait dans le monde. Elle répare le monde. Ça, si vous voulez, donc, si vous voulez, c'est ça. Je vous donne un exemple. On pourrait multiplier ça à l'infini. Mais ce que ça veut dire que quand vous avez un enseignement du pshat, si c'est un vrai enseignement, il doit correspondre au sod et inversement. D'accord? Ça, c'est de même pour ce qui est des deux dimensions, Yaakov et Israël. Yaakov représente Israël dans sa faiblesse. C'est celui qui talonne, celui qui peut être blessé par l'ange d'Ésaü. Tandis que Israël, c'est l'Israël dans sa pleine force, dans toute son envergure. Mais en vérité, dans l'Israël, dans sa faiblesse, se cache l'Israël dans sa grandeur. C'est-à-dire que c'est pour ça que pendant tout le temps de l'exil, où nous étions humiliés, nous étions persécutés, nous n'avons jamais perdu la conscience d'être Israël, même quand on se comportait comme Yaakov. À nouveau, cette correspondance entre le Niglé et le Nistar. De même pour ce qui est de la divinité. Or là, c'est très surprenant de voir que les kabbalistes, dans les points essentiels, rencontrent la pensée de Maïmonide. Maïmonide n'est pas un kabbaliste. Mais étant donné que c'est un grand Israël, les intuitions métaphysiques de Maïmonide correspondent aux intuitions métaphysiques de la Kabbale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Maïmonide dit dans son introduction au Guide des Égarés qu'on ne peut, quand on a compris quelque chose dans les choses divines, chez les théologiens, on ne peut pas en parler de manière claire. Parce que c'est comme si ces idées-là apparaissaient comme un éclair et disparaissaient immédiatement. C'est-à-dire, il y a à la fois lumière et obscurité presque simultanément. C'est en fait les deux aspects dont nous parlons ici. Parce que le monde révèle-t-il le créateur du monde? La réponse est non. Le monde cache le créateur. Mais d'un autre côté, le même monde nous révèle le Créateur. Donc vous avez ces deux éléments à la fois qui concernent la divinité, qui concernent la Torah et qui concernent Israël. C'est donc comme ça que le Shlah Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz comprend cet enseignement du Zohar. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de parallèle, de double niveau, aussi bien chez le Saint béni soit-il, que dans la Torah qu'en Israël. Ça, c'est donc pour la première lecture de ce passage du Zohar. J'espère avoir été assez clair. Nous allons passer très directement maintenant à une autre interprétation qui n'est pas contradictoire, mais qui met en évidence un autre aspect. C'est l'enseignement de Rabbi Chaim de Volozhin. Rabbi Chaim de Volozhin était un élève, le plus grand élève, dit-on, du Gaon de Vilna. C'est lui qui a fondé la Yeshiva de Volozhin. Un de ses livres les plus importants, qui ont beaucoup de réputation, c'est le livre Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. Je vous recommande d'ailleurs la traduction en français aux éditions Verdier par Benno Gross, Zichrono Livracha, qui a même eu l'honneur d'être préfacé, d'une belle préface d'Emmanuel Levinas. Et donc, dans ce livre, le Nefesh HaChaim, dans le premier portique, ça se divise en quatre parties, donc dans le premier, dans le chapitre 16, dans une note assez longue, Rabbi Chaim de Volozhin explique ce passage du Zohar. Eh bien, nous allons nous y mettre. Le voici. Donc, vous avez plusieurs éditions. Je me sers ici de celle en écriture Rashi, je l'aime bien. Bon. C'est comme ça que comprendra le lecteur, pour comprendre de manière simple, cette idée qui est rappelée dans le Zohar, parashat Aharemot, dans la paracha de Aharemot, Ain Gimel Amud Aleph, c'est-à-dire le passage que nous avons lu tout à l'heure. Shekutcha berichu veoraita veYisrael mitkasherim da beda. Que Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël se lient l'un à l'autre. Alors là, pour comprendre exactement ce que veut dire Rabbi Chaim de Volozhin, il faut comprendre comment est-ce qu'il comprend le terme Kutcha berichu. On dit d'abord, oh, Kutcha berichu, le Saint béni soit-il, c'est Dieu. Mais c'est pas exactement ça que ça veut dire. Parce que quand vous dites Kutcha berichu, si je voulais traduire ça en araméen et dire le saint béni soit-il, je dirais Kadisha berichu, le saint qu'il soit béni, ou bien plus précisément Yitbarach. Mais c'est pas ça qu'on dit, ce n'est pas que Dieu soit béni. On dit il est le saint et il est le béni en même temps. Il est à la fois, pour reprendre des termes que vous connaissez de la littérature française, il est à la fois transcendant, kucha, et il est à la fois immanent, berir, hu, c'est la même chose. En termes bibliques, c'est hu, ushmo, echad, lui, c'est-à-dire l'aspect transcendant. Ushmo est l'immanence. Echad est une seule et même chose. Hu, Ushmo Echad. Maintenant, petite remarque que faisait Manitou, c'est que les lettres du mot Hu, c'est les initiales de Hu, Ushmo Echad. Alors, à quoi ça nous mène? Ça nous mène à cette idée que quand on dit Kutcha Berihu, il s'agit de l'infini, le Ein Sof, mais l'infini qui se révèle en tant que se révélant. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez dans les prières que disent les kabbalistes avant de faire une mitzvah, on dit l'Eshem Yichud Kutcha Berichu Shrinte pour faire l'union entre Kutcha Berichu, le Saint béni soit-il, et son nom, Al Yedei Ahou Tamir Vene'elam, par le biais de celui qui est totalement caché. C'est-à-dire celui qui est totalement caché, c'est celui qu'on appelle Dieu. Mais il se manifeste en tant que Kutcha Berichu ou Shrinte, ou parfois Kutcha Berichu et Israël. Alors maintenant, une fois que nous avons compris ça, nous allons comprendre à quoi veut en venir Rabbi Chaim de Volozhin. Alors il dit, Vadai omek kavanato les sodot amukim. Il est évident que l'intention du Zohar, c'est de parler de secrets profonds. Im kolze, mais malgré tout, yesh le asbir ha'inyan gam befashtut al pizeh. On peut expliquer les choses de manière simple de cette manière. Ve'ainyan, et l'idée est que Satim. Dieu est à la fois caché et révélé. Qui? Parce que Atzmut Adon Kol, Ensof Baruchu, et nos Moussag. C'est-à-dire l'essence du maître de tout, l'infini béni soit-il, n'est pas accessible. Velet Machashava Tefisa Beklal. La pensée ne peut pas l'appréhender. Uma She Moussag Lanu Meat Milameat. Mais ce que nous pouvons en recueillir un tout petit peu, Hurak Mitzad Itchabruto Lehaolamot, ce n'est que du point de vue de son lien avec les mondes, Me'et Sheberaam V'Chitcham, à partir du moment où il les a créés et innovés. Le'Hayotam, pour les vivifier. Ul'Kaimam Kol Rega, et pour les maintenir à tout moment. Ou les anhigam et les diriger. Kemo Shekatuv, ainsi qu'il est dit, Ve'ata mechaye et kulam. Et toi, tu les vivifies tous. C'est-à-dire que le monothéisme hébraïque est très intéressant de ce point de vue-là, qu'il ramène tous les êtres à une seule et même source. C'est-à-dire que, contrairement par exemple au monothéisme musulman, dans le monothéisme musulman, c'est un monothéisme exclusif. Si il y a un Dieu, il n'y en a qu'un seul, qui est Dieu. Par contre, pour les enfants d'Israël, si Dieu est un, alors tout a un sens. Tout est inclus. C'est, au lieu d'être un monothéisme exclusif, c'est un monothéisme inclusif. C'est d'où la belle expression qui revient souvent, Ve'ata mechaye et kulam, et tu donnes la vie à tout, ça veut dire que tout a un sens. Et Velachen, Nishabcho Yidbarach, c'est pour ça que nous le louons, béni soit-il, dans nos prières, en disant qu'il est la vie des mondes, Hay Haolamim, ou bien Hay Haolamim, ça dépend des versions, mais peu importe, ça veut dire c'est lui qui donne la vie au monde. Qui colle, donc ce qui veut donc dire que du point de vue de l'essence divine, nous n'avons aucun accès, ni mental, ni expérimental, ni quoi que ce soit. Mais du point de vue du lien que le Créateur entretient envers sa créature, puisqu'il l'a créée, alors de ce point de vue-là, nous l'appelons celui qui donne vie au monde. C'est ça les deux aspects de la divinité dont parle le Zohar. Qui kol kavanat libenu b'chol atfilot v'abakashot, parce que toute l'intention de notre cœur dans toutes nos prières et nos demandes, Asur liyot, rak liyichudo, shel olam, ou enso baruchu, ne doit être orienté que vers l'unique du monde qui est l'infini, béni soit-il. Omnam, lo mitzad atzmuto yitbarach levad, mais pas seulement du point de vue de son essence, bifrinat eyoto mufrash me'alam olamot, car de ce point de vue-là, il est séparé des mondes. Et là, mitzad itchabruto itbarach birtzono apashut leolamot, mais au contraire, du point de vue de sa liaison, béni soit-il, de par sa volonté simple au monde, ve'isatro bahem lahiyotam, et le fait qu'il s'y cache pour les vivifier, ve'zehu klal inyan ha'avoda va'mitzvot kulam, ve'zeh levad kol hasagatenu, et c'est en cela que consiste notre service et toutes les mitzvot, et c'est tout ce que nous pouvons comprendre. Vechol, maintenant, alors, une fois qu'il a expliqué ça longuement, il a dit, comment est-ce que l'infini vivifie le monde? Quel est le canal par lequel Dieu donne la vie au monde? Là, il y a une surprise. Vechol chayutam vikiyumam shel ha'olamot kulam, et toute la vivification et l'existence de tous les mondes, ce n'est que par l'intermédiaire de la Torah, Akedosha, sainte, que chez Israël oskimba, lorsqu'Israël s'en occupe. Parce qu'elle est la lumière de tous les mondes et l'âme et la vie de tous. Alors, ça a l'air assez surprenant. Ça voudrait donc dire que le monde tient par le fait qu'il y a quelques étudiants de la Torah qui sont tournés vers un traité du Talmud Et à ce moment-là, le monde entier vit par leur force. Alors, on peut, disons, admettre ça au niveau purement mystique. Mais comment est-ce que cela se manifeste? Comment est-ce que cela peut être compris? C'est ce que nous allons comprendre par la suite. Il dit, mais il va plus loin. Et si dans le monde entier, d'un endroit à l'autre, d'un bout à l'autre, il y avait un moment où on n'étudierait pas la Torah, à ce moment-là, tous les mondes reviendraient au chaos. Ainsi que l'ont dit nos maîtres, Bishvi la Torah, c'est pour la Torah que le monde a été créé. Et comme nous disons, c'est la vie du monde qu'il a plantée parmi nous. C'est-à-dire la vie qui donne la vie au monde. Qui, Mekor Shorcha Ha'elyon, il est malam Mikol, parce que la source de sa racine suprême est au-dessus de tous les mondes. La reine Batalou Yachayut Shel Kulam, et c'est pour ça que de là dépend toute leur vitalité. Ve'amru gamken bishvil Israël, et on a dit également pour Israël, ce qui veut dire que Israël, c'est ceux qui étudient la Torah. Alors là, il y a une centralité de la pensée autour de la Torah. Maintenant, on peut se demander, oui, d'accord, mais quand on regarde le monde, on voit qu'il n'y a pas que la Torah. Il y avait un penseur juif au XXe siècle, à la première partie entre les deux guerres mondiales, je parle de Franz Rosenzweig, qui a dit une petite phrase: Dieu n'a pas créé la religion, il a créé le monde. Ah bon? Alors est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la Torah qui fait tenir le monde? La réponse est bien sûr que c'est la Torah qui fait tenir le monde, mais quelle Torah? La Torah que nous étudions, par elle-même, est restreinte. Mais c'est une Torah qui est liée à la Torah dans sa grandeur, ce qu'on appelle Torah Tachem, la loi que Dieu étudie. Vous connaissez ce fameux Midrash qui dit que la création pour créer le monde, Dieu a regardé dans la Torah, et comme ça il a créé le monde. Je veux bien, mais dans quelle Torah est-ce qu'il a regardé? Il n'a certainement pas regardé notre Torah. Notre Torah à nous est une dérivée de la Torah d'en haut. Il y a dans le Midrash Rabbah, on dit Novlot Chochma Shel Ma'ala Torah. Les dérivés de la sagesse d'en haut, c'est la Torah. Donc ça veut dire qu'il y a une Torah suprême, et cette Torah suprême est à la source de tous les êtres. Donc, et elle est à la fois cachée et révélée. Donc vous avez Kudsha Berichu Veoraita Mitkashran Dabeda. Et Akadosh Baruch Hu et la Torah sont liés l'un à l'autre. Et de même, rappelons-nous que la Torah est donnée pour un récepteur. C'est-à-dire, c'est la Torah qui est donnée à Israël. Qui et pour qui? Est-ce que c'est Israël qui est là pour accomplir la Torah? Ou est-ce que c'est la Torah qui est là pour vivifier Israël? La conclusion du Midrash, c'est que c'est la Torah qui est donnée pour Israël. Donc c'est Israël, celui qui reçoit, qui est l'essentiel. À nouveau, on peut se demander, d'accord, mais nous voyons dans le monde qu'il y a des milliards d'individus, certains n'ont même pas entendu parler d'Israël. Comment peut-on dire que c'est Israël qui fait tenir le monde? À moins de comprendre, je pense qu'il faut voir les choses de manière profonde. Quand on dit Israël, on parle de l'idée d'Israël. Or, l'idée d'Israël est à l'origine de l'identité Israël, évidemment, mais en filigrane, en cachet, elle inclut ce qu'on appelle l'ensemble de l'humanité. Pardon. C'est-à-dire l'ensemble de l'humanité, tout est inclus dans l'être d'Israël, dans ce qu'il a d'idéal. L'idée, comment dire, un terme platonicien, l'idée d'Israël est à la source de l'ensemble des êtres. D'ailleurs, on peut se poser une question très simple. Est-ce que Adam Arishon, le premier homme, était juif ou goy? La réponse, c'est qu'il est au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'il est à la racine à la fois des deux. Et c'est, disons, la partie centrale de l'identité humaine qui a été conservée par Israël. C'est sa moelle épinière. Mais une moelle épinière a de sens que si il y a une ramification des nerfs à l'ensemble de l'organisme. Or, c'est exactement de ça dont il est question quand nous disons qu'Israël est le cœur et les nations sont les organes. Or, un cœur sans organes ne sert pas à grand-chose et des organes sans cœur ne peuvent pas vivre. Donc, on peut dire de manière tout à fait légitime, Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël sont liés l'un à l'autre parce que l'un implique l'autre. Il y a également une troisième interprétation. Donc, nous avons vu pour l'instant l'enseignement du Shlah, l'enseignement de Rabbi Chaim de Vologine. Je voudrais vous citer une idée du Maharal de Prague. Sans vous amener le livre, dans le Netzach Israël, dans le chapitre 11. De quoi s'agit-il? Le Maharal est préoccupé par un argument des chrétiens. L'argument des chrétiens, au temps du Maharal, c'est si vous êtes vraiment le peuple élu, alors pourquoi vous êtes en exil si longtemps? Et donc, ce qu'affirme le christianisme au cours de l'histoire, c'est que la persécution d'Israël, disons l'humiliation d'Israël, serait la preuve de leur tort, le tort d'Israël et de la véracité du christianisme. Bon, évidemment, ce genre d'argument aujourd'hui n'a plus cours, étant donné qu'Israël a retrouvé sa place naturelle parmi les nations. Mais à quoi répond, comment est-ce que le Maharal de son temps, au temps de l'exil, pouvait répondre aux chrétiens? Et le Maharal de Prague dit qu'une élection ne peut pas être annulée pour une raison très simple. C'est que l'élection est à l'origine de tout être. Et donc, si Dieu a élu Israël, donc il a fait d'Israël le premier des peuples, on ne peut pas remplacer un premier par un deuxième. Et là, le Maharal emploie une terminologie intéressante. La cause, l'effet et l'intermédiaire. La cause de l'être d'Israël, c'est Dieu. Et donc Dieu ne va pas renoncer à ce dont il est la cause. Et puis l'effet, c'est Israël. Or, Israël a été créé de telle manière qu'il est en accord avec la volonté de Dieu. Donc, Israël ne peut pas être effacé. Et puis, il y a également l'intermédiaire. L'intermédiaire entre Dieu et Israël, c'est la Torah. Or, Dieu, il faut bien qu'il la donne à quelqu'un, cette Torah. S'il n'y a pas Israël, qui va recevoir sa Torah? Et là, le Maharal fait une petite remarque assez incisive. C'est que les chrétiens, eux, ont accepté la Torah et ne sont pas capables de l'accomplir, puisqu'ils ont annulé les mitzvot, ce qui prouve qu'elle n'est pas faite pour eux. Et donc, nous avons ici les trois éléments, Kutcha Brichu, Oraita et Israël, sous une forme philosophique. La cause, l'intermédiaire et l'effet. Kutcha Brichu, Israël, Oraita et Israël. Ça revient donc à cette idée centrale du Maharal de Prague. D'ailleurs, chez les kabbalistes, vous savez que toute réalité correspond à une séphira. Les séphirot sont les émanations de la divinité, et il y a parmi les 10 séphirot la séphira centrale. La séphira centrale est appelée Tiferet. Elle est la sixième parmi les 10 séphirot. Elle est donc exactement au milieu. Elle est représentée comme étant une droite de haut en bas, et également entre deux droites, à gauche et à droite. Et donc, c'est le point central, Tiferet. Or, la Tiferet en question, correspond à la Torah et correspond à Israël, et elle porte le nom de quatre lettres, Yud Kevav Ke, donc c'est le nom de Dieu. Ça veut dire Kutcha Brichu, Israël et Oraita sont une seule et même séphira, à chaque fois envisagée d'un autre point de vue. Maintenant, je pense que nous avons fait pour l'instant un grand tour. Je voudrais comprendre cette idée que la Torah est à la source serait la source du monde. Or, j'ai déjà fait comprendre au début de notre étude qu'il est difficile d'admettre que la Torah serait tout, à moins qu'on comprenne qu'il s'agit de la Torah d'en haut qui est effectivement tout. Alors vous savez que parfois il est amusant de dire, oui bien sûr, tout est écrit dans la Torah. Par exemple, vous avez une molécule d'eau, deux hydrogènes et un oxygène, H2O. C'est écrit dans la Torah, évidemment, puisque le mot Maïm est écrit par deux mêmes et un Yud. Le Yud, c'est ce qui donne la vie, donc c'est l'oxygène. Les deux mêmes, ce serait les Meiman, ça serait donc l'hydrogène. Et donc on dit n'importe quoi. Parce que si c'est vrai que tout est écrit dans la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin des chimistes pour le découvrir? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de Lavoisier pour découvrir la molécule d'eau? Mais en fait, ça veut dire que dans la Torah d'en haut, il y a effectivement toutes les sagesses et toutes en font partie. Maintenant, dans notre réalité, quand nous étudions la physique, par exemple, ou la chimie, nous ne faisons pas la bénédiction pour l'étude de la Torah. Ça prouve donc que c'est quelque chose d'autre. Et là, je voudrais vous amener un texte du Rav Kook. Un texte du Rav Kook assez surprenant parce que il est très rare que le Rav Kook conclue un texte par une question sans réponse. Mais là, c'est le cas. C'est dans le Shmona Kvatim du Rav Kook, dans le premier volume, dans la partie, dans le paragraphe 900, taf, taf, kouf, patak. Et là-bas, le Rav Kook se pose une question. C'est que, tout d'abord, il arrive que l'on découvre des choses qui concernent la Torah dans des endroits très éloignés de la maison d'études. Je lis ici, l'ifami motzim etor Torah davka bemakom rachok. Il arrive qu'on découvre la lumière de la Torah précisément dans un lieu éloigné. C'est comme si, en fait, la Torah avait laissé des traces dans des endroits qui ne sont pas étudiés. Je vous donne un petit exemple. Il y a une question à propos du livre de Bereshit, qui est de savoir que signifie le mot Yemim dans la paracha de Vaishlar, quand on parle des descendants de Ésaü. Il est question d'un certain Anna qui aurait découvert dans le désert les Yémim. Qu'est-ce que veut dire le mot Yémim? Alors nous avons une interprétation chez nos maîtres qui dit ce sont les mulets. C'est-à-dire que Anna aurait découvert le mulet. Et d'autres disent non, non, Yémim, ça veut dire des géants. Il aurait donc fait la guerre à des géants. Et nous découvrons chez un des pères de l'Église, je parle ici de Jérôme, qui dit avoir demandé à des... Une petite seconde, excusez-moi. Il vient de se Excusez-moi, mais il y avait quelqu'un à la porte, il fallait absolument que je réponde. Bon, donc... Ce Jérôme en question, qui a écrit la traduction du Tanakh en latin, la Vulgate, dit qu'il a demandé à un rabbin de son temps, un certain Hanania. Rappelez-vous que ce Jérôme en question vivait à l'époque des Amoraïm, c'est-à-dire au 3e, 4e siècle. Il a demandé à un rabbin que signifie le mot Yémim, et il lui a dit Yémim, ça veut dire des sources d'eau chaude. Bon, d'accord. Ça veut dire qu'il y a une interprétation du mot Yémim qui n'est pas arrivée à nous, qui est passée par un canal extérieur. Et là, je reprends donc ce que dit le Rav Kook, il arrive parfois qu'on découvre la Torah dans des lieux éloignés. Alors, pourquoi, dit le Rav Kook, c'est qu'en fait, tout cela faisait partie de la Torah, mais il y a eu des maîtres de sagesse qui avaient un comportement immoral, ce qui fait que les Juifs se sont éloignés de la sagesse. Ils se sont éloignés de l'étude des sciences, par exemple. Et donc, ça veut dire que des choses qui faisaient partie de la Torah, maintenant n'en font plus partie. Or, ce que dit ici le Rav Kook, Bederer Klal, de manière générale, En amechitza ben haTorah veHaChokhma gedura karaouy. La division entre la Torah et la sagesse n'est pas très bien tracée. Nous avons besoin de presque toutes les sciences pour bien comprendre la Torah. Quand est-ce qu'ils ont été évacués de la Torah? Ce n'est pas clair. Essekarifua, par exemple, l'occupation de la médecine. Kalulhu batora est inclus dans la Torah. Puisqu'il y a des enseignements de médecine dans le Talmud. Etc. Il nous amène ici plusieurs exemples. Et il dit également que dans le livre de Michelet, le livre des Proverbes, il est tout le temps question, dans 8 chapitres, très longs chapitres dans Michelet, il est question de la sagesse. Et à chaque fois que le mot chokhma, sagesse, apparaît, les Midrashim expliquent Torah. comme s'il n'y avait pas de différence entre la sagesse et la Torah. Et dit ici, nous découvrons dans Michelet la louange de la sagesse de manière générale. Mais il est possible que des déficiences morales de quelques sages ont alimenté l'idée qu'il y a une différence entre la Torah et la sagesse. Et là, il va encore plus loin. De manière générale, toutes les sciences amènent à la connaissance de Dieu et à l'amour de Dieu. Donc, toutes ces sciences sont incluses dans le commandement de écoute, c'est-à-dire écoute Israël, et tu aimeras l'Éternel. Shealze sovev, et c'est de ça dont la Torah dit, et toutes ces choses-là que je t'ordonne seront sur ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants. Donc, se dit le Rav Kook, c'est que toutes les sciences, de manière générale, de manière idéale, font partie de l'amour de Dieu et donc de la Torah. Maintenant, vous allez me dire, d'accord, oui, mais il est plus important de savoir ce qu'il faut faire que de savoir ce qu'il faut penser. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement, on commence à enseigner d'abord la loi pratique, le Shulchan Aruch, les règles, etc. C'est ce que dit ici le Rav, Pashutu Shechova Yagdamat Idiyat HaMaaseh. C'est pour ça qu'il est important de commencer par les devoirs pratiques, Vegam Regilut Beruach HaTorah, et également la familiarité avec l'esprit de la Torah qui vient avec l'étude. Mais, d'une certaine manière, l'esprit de la Torah, d'une certaine manière, on peut le trouver dans toutes les sagesses. Et en vérité, toute sagesse, c'est la lumière de Dieu. Et là, une petite conclusion, très intéressante. Et l'affirmation claire. Qui fait une différence entre la Torah et la sagesse générale. She'ela Gedola reste une grande interrogation. Donc, qu'est-ce que nous dit ce Rav? La Torah dont parle le Zohar, probablement quand il dit que tout est lié à la Torah, il faut savoir de quelle Torah on parle. C'est une Torah globale qui inclut toutes les dimensions. Donc, pour l'instant, ce que nous avons pu voir, c'est tout d'abord qu'il y a un passage du Zohar qui n'existe pas, c'est Kutcha Brechu Israël et Oraita Hadou. À part ça, qu'il y a un passage du Zohar qui existe, c'est-à-dire qui dit que il y a un lien entre HaKadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, et également qu'il y a deux niveaux dans chacun des trois, c'est-à-dire Dieu en tant que caché et en tant que révélé, la Torah dans ce cas-là de caché et de révélé, et Israël en tant qu'il est à la fois caché et révélé. Ça, c'est ce que nous avons vu pour l'instant. À part ça, nous avons quand même élargi cette idée que il faut trouver dans la Torah dans toute son envergure, ce qui n'est pas toujours le cas de ceux qui l'étudient. Maintenant, il y a ici, et d'où vient, ou quand est-ce que ça commence, cette simplification de l'expression qui est utilisée par les sages, dont le Rav Tsiouda du Hadou. Ben parce que c'est vrai, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint du peuple, qui arrive à formuler des choses qu'on ne peut pas formuler au niveau de l'étude, mais qui intuitivement ont quand même un sens. C'est ça qui justifie le titre de cette étude d'aujourd'hui. Aurait-il encore des questions? Il me semble que dans l'ensemble, nous avons fait un tour d'horizon qui méritait d'être fait, et merci beaucoup à David Attar
Merci
d'avoir
pour tout ça.
popularisé l'étude de la Kabbale.
Au
revoir.
revoir. Merci
Shalom,
beaucoup.
shalom.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bye
bye.
Au revoir.
Shabbat à tous. Alors, je crois que le Rav Cherki s'est trompé dans l'horaire de fin. Il a fini 15 minutes plus tôt que prévu.
Qu'il a commencé à écrire. Il a oublié parce que tout le
Voilà.
premier est fini à 11 heures.
Bref, les amis, bon,
Ouais.
c'est que ça. 45 minutes, c'est mieux que zéro. On aurait préféré 1 heure, mais c'est marché, comme on dit.
Pour être
C'est.
honnête, il a le moyen de serrer des questions, hein.
Oui, mais on n'a même
Ouais,
pas
s'il
eu
te
le temps de
plaît.
réfléchir à la début de la question. Il est parti. Bon, ah,
Oui,
l'homme
bien
Chanel,
sûr.
si tu veux.
Ouais.
On a eu la chance d'avoir 2h45 de cours ce matin autour de la Kabbalah. Bon, au Hachem, autour de la fête de l'Agba Omer. Je rappelle que demain, si Dieu veut, Bezrat Hachem, si tout se passe bien, on fera un feu à Ra'anana avec le Rav Yoel, avec un cours en français suivi d'un cours en hébreu. Voilà, un petit cours. Ça va être une demi-heure, on va essayer de le filmer, mais ne m'en voulez pas si c'est pas filmé. Je vous diffuserai, Bezrat Hachem, les cours de ce matin, cet après-midi, en fin de soirée, j'espère. Voilà, en vous souhaitant le meilleur et à mardi pour ceux qui sont inscrits à la Yeshiva. Mardi, il n'y aura pas le cours du Rav Kling, il n'y aura que les deux cours du Rav Sigoura. Voilà, qui sont maintenus Bezrat Hashem. OK?
Donc on vient à quelle heure? Donc c'est on vient comme si
À
c'était
10h.
Je suis en train de checker avec le Rav Sigoura, mais je pense qu'on ne bougera pas de 10h à midi comme d'habitude. Donc vous en France, c'est 9h-11h. Voilà.
Voilà.
Bezrat
Toda.
Hashem.
Ça va.
Des bonnes nouvelles. Shalom, shalom.
La boîte à
Shalom, David.
bye bye.
Merci.
Merci.
Bye
Bye.
bye.
Alors.
Bye.